Et c'est un autre regard sur la Russie que propose notre invité, Jean-Michel Cosnaud. Un Français installé à Moscou depuis plus de 20 ans, cet ancien directeur d'une agence publicitaire américaine a tout quitté pour ouvrir un bar rock dans la capitale russe. Il développera ensuite des dizaines de bars, de boîtes de nuit et deviendra le loup blanc des nuits moscovites. C'est l'écrivain Emmanuel Carrère qui a conseillé à Jean-Michel Cosnaud d'écrire un livre, Froid devant, qui se lit comme un roman noir. Jean-Michel Cosnaud explique comment il a atterri à Moscou en décembre 1996.
À l'époque, j'étais complètement perdu. Je pense que les 6 mois qui ont suivi la mort de ma compagne, j'étais complètement brisé à l'intérieur. J'avais plein d'interrogations. Je ne sais plus ce que je voulais faire, où je voulais aller. Et quand je suis arrivé en Russie, je me suis retrouvé comme un poisson dans l'eau et j'ai décidé de rester. Et la Russie, je ne sais pas, j'ai tout de suite trouvé une forte empathie dans ce pays. La Russie est un pays qui sait accueillir ceux qui souffrent, comme disent beaucoup de Russes. Et je me suis retrouvé dans ce pays en plein chaos, en reconstruction, avec une énergie vital incroyable, et je me suis reconstruit, comme je le dis dans le livre, parallèlement à la reconstruction du pays. Les gens, après la chute du mur, la fin du communisme, le début de reconstruction dans ce pays où il n'y avait plus de police, plus rien, et les gens réapprenaient à vivre, il y avait un élan vital absolument incroyable, un gros niveau d'énergie, et je me suis laissé aspirer par ce maelstrom, si on peut l'appeler comme ça.
Parce que vous-même, vous en aviez de l'énergie, Jean-Michel Cosnaud, très vite vous devenez le roi des nuits moscovites. Vite. Comment expliquez-vous votre succès ?
Moi, je me considère comme un artisan. J'ai monté ce premier baroque qui s'appelait le Chesterfield Café, qui est un énorme succès. Et ensuite, les gens m'ont appelé pour reprendre des affaires qui avaient fermé ou des gens qui voulaient monter de nouvelles affaires. Donc, je me suis retrouvé à monter beaucoup de choses, mais j'ai jamais eu un empire. Toujours encore maintenant, j'ai pas de bureau, j'ai pas de secrétaire. Je suis vraiment un artisan voyageur qui est monté des concepts. Moi, je suis resté discret comme un électron libre. Je me suis tout de suite senti à l'aise dans le pays. J'apportais quelque chose qu'il ne savait pas faire. Cette notion de service, d'atmosphère bon enfant, de concept rock et ce côté un peu sans limite que j'avais intrinsèquement chez moi, d'être capable d'avaler tous les excès et de continuer à avancer.
Vous avez gardé cette conviction de vivre dans le pays le plus libre du monde ?
Absolument, absolument. C'est paradoxal, surtout quand je parle avec mes amis français. Je pense que la France, chaque jour qui passe, on leur rogne un peu de liberté, je sais pas, de leur sphère de liberté individuelle, alors qu'en Russie, on jouit d'une immense liberté individuelle. Il y a ce paradoxe entre liberté publique et liberté individuelle. Comme dit un copain russe, les Russes se foutent des libertés publiques, mais ont une fin sans limite de leur liberté individuelle. Et c'est vrai qu'on se sent libre en Russie. La Russie a évolué à une vitesse incroyable. Je dis toujours, c'est comme si on voyait une évolution darwinienne en accéléré en dessin animé. La Russie, elle a changé même physiquement. Les gens ont changé physiquement. Leur manière d'être, de s'habiller, de parler. La ville a changé, Moscou. Ça change dans les régions aussi. Non, c'est plus le même pays.
Mais vous pourriez faire la même carrière, mener à bout les mêmes projets aujourd'hui ? Ou ça serait impossible ?
Non, c'est encore possible, bien sûr. Ça reste le pays de tous les possibles, comme dit Carrère. C'est plus l'Amérique qui fait rêver, c'est la Russie. Bon, il y a moins d'opportunités. Beaucoup de jeunes Russes aussi ont monté des affaires, des restaurants, des clubs, des boîtes de pub. Non, non, ils ont appris très vite. Ils ont moins besoin des expats qu'ils n'en avaient besoin au début des années 90.
On a, vous l'avez dit, en Occident, une image de la Russie qui peut aussi faire peur, avec un Vladimir Poutine qui a des visées expansionnistes, qui veut refonder la grande Russie d'autrefois. Selon vous, l'Occident a tort de se méfier des Russes ?
L'Occident a tort, c'est un vrai délire de dire que Poutine a des visées expansionnistes. Si on veut pas être visé expansionniste, faut regarder ce que fait l'OTAN. L'OTAN est en train d'installer des bases partout aux frontières de la Russie. L'Amérique est en guerre dans à peu près 70 pays aujourd'hui. La Russie n'a aucune vocation impérialiste. La Crimée est rentrée en Russie, mais la Crimée était russe, a toujours été russe. Les gens parlaient russe. Le fait que les Ukrainiens aient voulu supprimer le russe comme langue principale, ça a précipité la Crimée dans les bras de la Russie. Mais je pense que Poutine n'a fait que réagir sur ce coup. L'Ukraine, c'est un autre problème. Aujourd'hui, le Donbass russophone s'est fait bombarder le lendemain de l'arrivée de Porochenko au pouvoir. Je pense que les Ukrainiens, le pauvre peuple ukrainien s'est fait rouler dans la farine par les Américains, en partie par les Européens. Aujourd'hui, on le laisse tomber, alors qu'il devait garder cette vocation d'être un pont entre la Russie et l'Occident. Et je pense que l'Ukraine, pour s'en sortir, a besoin de l'Europe comme elle a besoin des Russes. Vu du côté russe, c'est une tragédie, cette guerre. Elle n'aurait jamais dû avoir lieu. Tout n'est pas rose, mais je trouve que les excès anti-poutiniens sont démesurés. Poutine n'est pas un dictateur, c'est pas un tyran, il a jamais eu l'intention de recréer l'Union soviétique. Tout ça, ce sont des délires liés, à mon avis, à une volonté des gens qui ont le pouvoir aux États-Unis en ce moment, ils le disent d'ailleurs, qui ont peur de voir leur unipolarité vaciller et qui considèrent la Russie comme un danger sur le sujet.
Mais c'est quand même Poutine qui, par rapport à ce qui se passe en Syrie, soutient Bachar al-Assad, qui lui, pour le coup, est un véritable dictateur.
Voilà, le fait qu'il soit un dictateur, ça, personne ne le conteste, mais aujourd'hui, de dire Poutine soutient Bachar el-Assad, pareil, c'est un abus de langage. Aujourd'hui, Poutine soutient les structures gouvernementales syriennes parce que sans elles, la Syrie tomberait dans un chaos à l'instar de la Libye ou de l'Irak. Je pense qu'aujourd'hui, Bachar n'est pas le problème essentiel, mais un ennemi prioritaire. Ensuite, on réglera le problème de Bachar. Je pense que Poutine n'en a rien à faire de Bachar. Poutine n'a pas envie que la Syrie, quand même assez proche des frontières du Caucase, devienne un État comme la Libye ou l'Irak. La Russie, elle va évoluer comme l'Europe, comme un pays libéral. La politique économique de Poutine au départ était libérale. Et je pense que de personnaliser à ce point le personnage fait oublier qu'en fait il a un rôle de centriste, il est un modérateur entre les ultralibéraux et les nationalistes. Je pense que la Russie a vocation de travailler avec l'Europe. Il suffit de voir les réactions des Russes après les attentats à Paris. Il y avait des queues de 100 mètres de gens qui venaient déposer des fleurs et des bougies. Les Russes ont été extrêmement blessés de se sentir rejetés comme ça par la France et l'Occident.
Vous citez dans votre livre Dostoïevski qui avait écrit « Il est impossible de comprendre l'âme russe sans être orthodoxe ». Et vous êtes devenu orthodoxe. C'était un passage obligé ?
C'est vrai que l'orthodoxie fait partie des archétypes russes et fait partie intégrante de ce qu'on appelle l'âme russe. Sachant que la Russie est comme un pays multiconfessionnel, qui n'est pas un pays laïque, il y a quatre religions officielles, le bouddhisme, l'islam, le judaïsme et l'orthodoxie. La société russe est apaisée, il n'y a pas de problème entre les musulmans, les juifs, les bouddhistes et les orthodoxes.
Mais vous écrivez aussi à la fin de votre livre, Jean-Michel Cosnio, « Les Russes ne raisonnent pas comme nous. Ce mélange de pragmatisme et d'irrationalité sont souvent déroutants. » Alors vous utilisez volontairement le terme « nous ». Que vouliez-vous signifier par là ? Nous, c'est vous ? Enfin, vous êtes
alors,
un occidental ?
Si vous lisez la phrase après dans le livre, je dis nous, mais je dis finalement, je me sens beaucoup plus proche des Russes que des Français. Quand je dis nous, c'est l'Occident. On a tendance à faire ce qu'on appelait à l'époque, quand j'étudiais la sociologie, de l'ethnocentrisme et de considérer que les Russes sont des Occidentaux comme nous Français ou vous Suisses. Mais pas du tout, en fait. C'est un peuple de mélange, c'est un peuple asiatique et russe. Il y a toujours eu cette espèce de dialectique culturellement entre ces deux notions. Et il faut essayer de les comprendre plutôt que de les juger.
Un regard intérieur russe, celui du Français Jean-Michel Cosnio, qui signe Froid devant aux éditions Robert Laffont.